mars. Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Hydro-Québec doit importer de l'électricité, mais on crie au scandale. J'ai Guillaume Lavoie et j'aimerais lui poser la question suivante. Est-ce qu'Hydro-Québec doit seulement produire et exporter ou est-ce que importer de manière ponctuelle fait partie du mandat d'Hydro-Québec ou devrait faire partie du mandat d'Hydro-Québec?
Mais d'abord, le premier mandat d'Hydro-Québec, c'est de fournir l'électricité aux Québécois. Alors, on parle de ça, là. Puis on a une espèce de compréhension binaire, là. C'est comme hein, quand le PIB monte, on est de bonne humeur. Quand il descend, on est plus triste. Quand on exporte, on se dit « Ah, ça va bien ». Quand on importe, là, c'est presque là, « Qu'est-ce qu'Hydro-Québec fait de ses journées ?» Puis ça n'a pas de bon sens qu'on ait une richesse autant qu'on n'en a pas assez. Faites-moi 8 barrages avant demain matin. Là. C'est plus compliqué que ça. Et il faut, Yasmine, d'abord changer les frontières de la conversation. Et là, je m'adresse là, tant à ceux à droite que ceux à gauche, l'idée de penser l'équation énergétique sur la base des frontières du Québec, c'est ridicule, c'est stupide. L'énergie, surtout pour le Québec, qui peut produire énormément pour une très petite population, c'est de l'avoir, ou plutôt d'avoir une compréhension continentale de la chose. Vous savez, oublions la journée d'aujourd'hui, oublions quand il fait très froid, oublions tout ça. Hydro-Québec importe de l'énergie. On le fait là, régulièrement. C'est presque de la bourse. D'ailleurs, il y a à Montréal un équivalent d'un plancher de la bourse énergétique. Je vais vous donner un exemple. Parce que, tu sais, Yasmine, l'énergie est pas toute égale. Toutes les énergies sont pas égales entre elles.
Non.
Nous, on a au Québec un avantage que les autres n'ont pas. L'énergie qui permet de mettre littéralement là, l'interrupteur à on ou à off le plus facilement, c'est l'hydroélectricité. T'ouvres la turbine, tu fermes la turbine. T'ouvres le barrage ou tu le fermes. Si tu produis du nucléaire, tu peux augmenter et réduire la puissance, mais sur du très long. Tu sais, tu peux pas mettre ça off comme ça, là. Même chose pour de l'éolien ou du solaire où tu peux pas l'emmagasiner. Alors, prenons l'exemple de l'Ontario, qui sont beaucoup en nucléaire. Ben, il y a des moments où l'Ontario ont trop d'énergie. Ils ont un surplus. Alors, il faut qu'ils s'en débarrassent. Alors, ils appellent le Québec. Pourriez-vous nous l'acheter, s'il vous plaît? On va le faire très, très bas. À la limite, on va vous payer pour décharger notre réseau. Hydro-Québec, en pleine nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses barrages, achète de l'énergie à presque rien ou à la limite se fait payer pour amener de l'énergie sur le mettre sur son réseau. On a de l'énergie, si vous voulez, ontarienne au Québec. Mais chaque morceau, chaque goutte d'eau qui passe pas dans la turbine, c'est de l'énergie qu'on en réserve plus tard. Plus tard quand? Quand le prix d'énergie est plus grand. Alors, on a, nous, plus de flexibilité qu'à peu près tous les autres joueurs énergétiques sur le continent. Alors, faut en profiter. Maintenant, il y a des moments, dans des périodes de pointe, où là, il n'y en aurait pas assez. Quand il fait des très grands froids, mais c'est ça qu'on vit. Mais voyez l'équation à l'envers. Est-ce que ça ferait du sens? Imaginez ça, là. Est-ce que, quand vous recevez pour Noël, ou le jour de l'an, ou Pâques, dans des grandes fêtes de famille, vous dites, pour cette journée-là, ça aurait vraiment bien fait si j'avais eu un congélateur de plus là, parce que j'ai cuisiné en masse. Bon, ceux qui connaissent savent que c'est pas moi. Là. Je cuisine pas, je crois pas à ça.
Mais je crois pas, ceux qui ça cuisinent c'est une religion, tu sais.
C'est ça. Ben oui, parce que, et d'ailleurs, le Ricardo fait partie des dieux, là. Mais moi, je suis pas très bon là-dedans. Mais ceux qui cuisinent beaucoup, à un moment donné, ont besoin d'un congélateur de plus. Est-ce que vous achèteriez un congélateur de plus pour la fois où vous allez recevoir de plus? Ce serait pas une bonne dépense. Est-ce qu'on va construire un barrage de plus pour les 3 jours de période de pointe qu'on n'a pas assez? Là, c'est pas une thèse pour pas construire de barrage, mais tu peux pas l'analyser sur, hey, j'ai manqué de courant une journée dans l'année, donc j'ai pas assez de capacité. D'abord, on manque pas de courant. On en importe parce qu'on a des besoins de pointe. Comme on en exporte parce que nous, à un moment donné, on en a plus qu'on pourra en consommer. Puis là, on va aider dans des périodes d'été.
Ça, c'est comme si le monde qui avait peur de manquer de papier de toilette pendant le début de la pandémie continuerait à emmagasiner du papier de toilette aujourd'hui, là, tu sais.
C'est vraiment incomparable dans ces eaux-là. Mais il faut vraiment... Et peut-être que la journée aujourd'hui va nous amener à réfléchir à ça, là. La conversation, pardon, énergétique n'a de sens que dans, sur une échelle continentale. Et là, la question, c'est si on veut en faire plus de l'énergie, dites-moi pas au Québec, on n'en a pas besoin de plus ou on est déjà vert. C'est ridicule. La conversation éco-énergétique, elle peut pas être québécoise. Le GES, échelle Québec, ça bouge pas beaucoup l'aiguille sur l'échelle planétaire. Par contre, avoir plus d'énergie verte pour permettre à la Nouvelle-Écosse, à l'Ontario, au nord-est des États-Unis, de baisser sa consommation d'hydrocarbures pour produire de l'énergie, il y a donc une destinée continentale énergétique pour le Québec, mais il faut que l'énergie, on la réfléchisse quand il fait chaud, comme quand il fait très froid, à l'échelle continentale. Alors aujourd'hui, là, c'est pas la preuve que Hydro-Québec fait pas bien son travail, c'est la preuve qu'on a de plus en plus un marché nord-américain et on est capable, avec l'ensemble de la production qui existe au niveau du continent, de permettre à un et à l'autre, une fois de temps en temps, de faire face à ses propres périodes de pointe.
Guillaume, après le trio péquiste qui a réussi à siéger à l'Assemblée nationale sans jamais prêter serment au nouveau roi Charles III, voilà que l'Australie annonce que c'est fini la royauté sur les billets de 20 pièces. Il n'y en aura pas de Charles III sur les pièces de monnaie. Le roi et la royauté ne sera plus là. Ils vont plutôt rendre hommage aux populations indigènes et autochtones de l'Australie. Est-ce que le Canada devrait suivre cette idée australienne?
Oui, mais d'abord, il y a une limite. D'abord, il faut enraciner ce débat-là là, en échelle. Alors ici, la question, c'est pas est-ce que c'est correct d'honorer la monarchie versus les Autochtones. Si j'enlève un roi, je vais mettre quelqu'un des peuples autochtones. L'enjeu d'abord, là, reconnaissons qu'il est particulièrement humiliant pour un démocrate d'avoir comme chef de l'État quelqu'un qui est là juste parce qu'il a le sang de la bonne couleur. C'est contraire à tous les principes de base. Là. La monarchie est un système profondément humiliant, abject même. C'est encore plus humiliant et abject quand tu vis au Canada et que ton monarque vit même pas dans ton pays et est même pas citoyen de ton pays. C'est encore pire, là. Il y a des limites à être colonisé. Alors, les Australiens, eux, ont essayé de se débarrasser de la monarchie. Ça n'a pas vraiment marché, mais là, au moins, ils se sont dit, sur nos pièces de monnaie, si on peut pas se débarrasser de la monarchie tout de suite pour en faire une république, on va enlever des symboles qui représentent quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, là. Alors là, ils vont enlever l'image des monarques pour mettre des images qui sont propres à eux. Puis là, ils décideront qu'est-ce qu'ils veulent mettre. Mais au Canada, on a encore ces problèmes-là. Alors, nous, c'est le 20 $.
C'est un problème,
regardez,
Guillaume.
Ça, c'est comme de dire, Yasmin, alors, non, c'est un problème, puis oui, c'est un problème. Non, c'est pas un problème qui fait qu'aujourd'hui, il y a des itinérants dehors qui peuvent pas se chauffer, il y a des listes d'attente. Toutes ces choses-là, on n'est pas de cet ordre-là. Est-ce que c'est important pour le Québec de se doter d'un drapeau? Est-ce que c'est important pour le Canada de se doter de son propre drapeau? Évidemment, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fait bien plus longtemps que ces deux-là qu'on l'a. Mais à un moment donné, les symboles, c'est important. C'est important parce que ça dit qui on est, à qui on appartient, quelles sont nos aspirations. Il y en a qui disent, nos symboles, c'est la famille royale britannique. Moi, je suis pas d'accord avec ça, je suis un républicain. Et d'ailleurs, c'est pas une bataille souverainiste-fédéraliste, là. D'ailleurs, on ne devrait jamais mélanger ces enjeux-là. On peut être un Albertain de Lethbridge, canadien jusqu'au bout des ongles, et trouver que la monarchie, c'est abject.
Absolument.
Puis peut-être que ce serait un projet canadien, ça, d'ailleurs.
Parlons de la Chine, on en a largement, c'est largement dans l'actualité, notamment à cause de ce ballon qui traverse l'Amérique du Nord et dont on ne sait pas vraiment quels sont les objectifs, à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Et là, on apprend que Blinken, le secrétaire d'État américain, ben il annule sa visite en Chine.
Ouais, Yasmin, la diplomatie, c'est les symboles élevés en langage. C'est presque de cet ordre-là. Et c'est un peu grossier d'envoyer un ballon aussi gros pour prendre des photos qui seraient retransmises par la suite, peut-être à la limite pour espionner des conversations radio. Mais très franchement, si vous êtes un gouvernement étranger qui fait de l'espionnage, il y a des manières plus simples d'avoir des
plus
photos
discrètes
de missiles nucléaires au Montana, là. Je suis pas sûr que ces photos-là ont pas déjà fait le tour de la planète plusieurs fois depuis longtemps. C'est pas particulièrement nouveau. Alors, Pourquoi est-ce qu'on en entend parler aujourd'hui? Ça va pas bien entre la Chine et les États-Unis. Écoutez, ça fait 6 ans que le secrétaire d'État américain a pas visité la Chine. C'est beaucoup, ça, pour deux géants qui, les deux ensemble, représentent à peu près le cœur de à peu près tous les enjeux. Alors, est-ce que on dirait cacher ce ballon que je ne saurais voir? Est-ce que le ballon, finalement, devient pas utile aux deux? Pour la Chine, ça permet véritablement de mettre l'administration Biden dans quelque chose d'un peu humiliant. C'est franchement, la Chine qui t'espionne chez vous, que tu peux voir ça à CNN, Trump est furieux, les républicains déchirent leur chemise, les démocrates ont l'air faibles alors que les républicains disent « si c'était moi, ça ferait longtemps que je l'aurais tiré avec ma carabine ». Fait que ça joue un peu dans leur rhétorique à eux. Et en même temps, c'était un peu intéressant pour Blinken de dire « ben finalement, j'irai pas en visite. On va vous empêcher de me recevoir. Vous aurez organisé ça pour rien. Il n'y aura pas de photo op avec votre leader à vous et un représentant important des États-Unis. Alors, vous qui vouliez normaliser la relation, hein, il parle de reset, essayer de repartir sur des nouvelles bases, me dire devant tout le monde qu'il faut pas que j'aille à Taïwan. Ben, arrangez-vous avec vos troupes, j'y vais pas, puis là, je vais le symboliser avec le ballon. Alors, quelque part, on imagine que ces gens-là se parlent, mais publiquement, on est maintenant plus loin d'être capable de se revoir. Alors, on peut imaginer que, Dieu merci, il y a des G20, il y a des G7,
oui, ils vont
au moins
se retrouver.
Que les leaders puissent se faire prendre en photo ensemble.
Mais c'est un peu
comique de voir un plan d'espionnage à CNN.
Le fait de finalement annuler cette visite prévue en Chine, est-ce que ça peut pas être considéré comme un aveu que les États-Unis ont été humiliés par la présence de ce ballon espion, que c'est gros, que c'est important? Est-ce que ce n'est pas une reconnaissance un peu de la part des États-Unis que ils l'ont pas vu venir?
Moi, je pense qu'il manque d'informations là-dessus, ou il manque d'informations réelles, là, parce que moi, je ne crois pas une seconde que c'est ce matin que le service de renseignement américain a découvert qu'il y avait un ballon au-dessus du Montana. Là. Hein, il arrive par l'ouest, évidemment. On imagine qu'il doit y avoir quelqu'un avec des jumelles là au service de renseignement canadien qui l'a vu venir il y a déjà quelques jours. Il y a le NORAD qui s'occupe de la sécurité aérienne de l'ensemble de l'Amérique du Nord. Il y avait des postes avancés en Alaska. La grande question, c'est pourquoi ça devient public aujourd'hui? Et ça, c'est le bout. Qui l'a rendu public d'abord? C'est les médias américains, mais ils ont été pistonnés par les Chinois, ou les Américains ont dit, tiens, c'est aujourd'hui qu'on rend ça public, parce qu'ils auraient pu le rendre public quand c'était en direction de l'Alaska. Là, il n'y a pas grand-chose à espionner là, là. Quoique, selon Sarah Palin, on peut voir la Russie depuis votre perron.
Eh oui, faut pas l'oublier.
Pourquoi c'est maintenant? Ça, c'est le bout qu'on sait pas encore. À qui profite le crime, si crime il y a? Ça, c'est ce qu'on va découvrir ou on va mieux comprendre dans les semaines qui vont venir.
Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve lundi.
Au plaisir.